La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au public de ce Chez du Rouge à Malaga dans lequel nous nous trouvons toute cette semaine pour évoquer chez lui le prix Nobel de littérature 1952, François Mauriac. Et ce prix Nobel, s'il a été décerné à l'écrivain Mauriac, il l'a peut-être aussi été au journaliste Mauriac, l'auteur de 4000 articles, du fameux bloc-notes en particulier. Même si davantage que le mot de journaliste, c'est celui d'éditorialiste qu'il faudrait utiliser pour qualifier cette partie de son œuvre. Car celui que l'on a dit écrivain régionaliste a su sortir de son bordelais bien-aimé pour prendre position sur les convulsions du monde, et il s'est bien rarement trompé. C'est de cela et de son positionnement politique dont nous allons parler aujourd'hui, après la biographie lundi, le panorama de l'œuvre mardi et avant la visite demain de cette maison qui nous accueille pour ces 4 épisodes, c'est-à-dire Malaga. Alors sans doute, Mauriac a-t-il l'image d'un homme de droite dans le grand public ? Ce qui n'était qu'en partie exact. Nous poserons en tous les cas cette question et d'autres à l'écrivain Michel Vinocq, à l'historien, pardonnez-moi, Michel Vinocq, écrivain aussi d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que sa pensée politique ne peut être détachée de la foi chrétienne. Il l'écrira d'ailleurs à Gide. Je n'ai pas choisi le christianisme, il m'a été inoculé dès ma naissance et avant même que je sois né. Et c'est Philippe Dazébrun, professeur à l'Institut catholique de Toulouse, qui nous en parlera. Bienvenue à tous les deux et bienvenue à tous. Voici la compagnie des auteurs.
Les écrivains entrent en général assez tard dans la politique parce que les écrivains, au départ, ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Et en général, ça dure très longtemps. Je vais vous confier un secret. Monterland ne s'intéresse qu'à Monterland. Cocteau ne s'intéresse qu'à Cocteau. Cocteau ne s'intéresse pas à Monterland. Monterland ne s'intéresse pas à Cocteau. Mais, mesdames et messieurs, je n'étais pas différent des autres. Et quand j'étais un jeune écrivain, à Bordeaux, puis à Paris, je ne m'intéressais qu'à ce qu'écrivait François Mauriac.
Extraordinaire archive de François Mauriac qui date de 1954, enregistré, figurez-vous, Michel Vinocq, bonjour.
Bonjour.
Lors d'un débat de l'Express, où Mauriac, officier à l'époque, vous êtes historien, j'ai dit écrivain, vous avez aussi écrit des romans. Des romans historiques.
Oui, enfin, je crois qu'un écrivain est surtout quelqu'un qui écrit des fictions, qui invente. Et en ce sens, je ne suis pas écrivain. Alors, on peut donner une autre définition de l'écrivain. Mais pour moi, c'est ça, c'est la différence entre ceux qui ont, soit par leur imagination, soit par un goût très profond, envie de raconter des histoires. Alors que moi, j'essaye de raconter l'histoire, ce qui est un peu différent.
Mais vous vous intéressez quand même aux écrivains.
Ah, oui,
Madame
oui.
de Staël, vous avez lu le prix Goncourt de la biographie, vous avez écrit une biographie de Flaubert en 2013 chez Gallimard, vous avez publié, alors lui, bon, était-ce un écrivain, François Mitterrand en 2015, une biographie également.
Oui, on dit que c'est un écrivain manqué.
Oui.
Hein, donc, non, mais c'est peut-être pour ça que je me suis intéressé à Mauriac. Hein. Tous ces écrivains, ce qui m'intéresse, c'est leur rapport à la société de leur temps, à la politique par conséquent. Et dans mes travaux, j'ai tenté précisément d'établir des passerelles entre l'histoire littéraire et l'histoire tout court. Tout simplement parce que au départ, j'étais de formation littéraire, je faisais une licence de lettres modernes, j'ai découvert l'histoire très tardivement, bon, j'étais à la Sorbonne, au lycée, ça ne m'avait pas du tout intéressé, et ensuite, j'ai tenté, vous voyez, d'établir justement des... Voilà. Des passages entre la littérature et la politique et l'histoire politique.
Mais Mauriac a parlé de François Mitterrand. Il disait qu'il aimait bien Mitterrand. J'ai même une citation, si vous voulez. « Je veux dire, un personnage de roman, Mitterrand, c'était un garçon romanesque. » Et il précisait « Il sort à quelques lieues de chez moi du territoire charentais comme Rastignac. »
Oui, oui.
Vous sentez une proximité?
Oui, je cite cette phrase dans ma biographie de Mitterrand, parce que c'est évident. Mauriac a eu beaucoup de tendresse pour Mitterrand, dans lequel il voyait quelqu'un qui appartenait d'abord à sa famille spirituelle. Il était un jeune catholique, Mitterrand, qui a été, quand il a fait ses études à Paris, quand il a fait ses études à Paris, sa mère s'est arrangée pour qu'il soit dans cette célèbre pension de la rue de Vaugirard, où François Mauriac avait été lui-même auparavant pensionnaire.
Où il avait été renvoyé d'ailleurs. Ça ne vous dit rien?
C'est un...
Philippe Dazébrun.
Oui.
Je ne vous ai pas encore dit bonjour, vous dis bonjour à cette occasion, vous pouvez préciser ce point?
Oui, en effet, il y avait des querelles au 104 rue de Vaugirard, qui était un foyer tenu par les pères mérianistes, des querelles qui opposaient les partisans de Marc Sangnier et de l'Action française. Et le jeune Mauriac, étant plutôt sioniste à l'époque, avait maille à partir avec les étudiants de l'Action française, et c'est ce qui lui avait valu d'être poussé vers la porte.
Michel Vinocq.
Oui, effectivement, il faut dire que Mauriac était d'une famille très conservatrice, bourgeoise, traditionnelle. Un de ses frères était bel et bien membre de l'Action française. Et il a baigné dans ce milieu-là. Or, assez jeune, pourtant, effectivement, il y a eu de la sympathie pour Marc Sangnier et son mouvement qui s'appelle le Sillon. C'est ce qu'on appelle, bon, la démocratie chrétienne. Voilà.
Alors on va parler de tout ça, on va revenir sur le Sillon, mais d'abord je voudrais vous représenter Philippe Dazébrun, vous êtes donc professeur à l'Institut catholique de Toulouse, et vous, l'engagement de Mauriac, c'est par le prisme de la religion que vous le regardez.
Oui, en effet, moi je me pense que l'élément religieux est déterminant dans les prises de position journalistiques et aussi au-delà politique de François Mauriac. Parce que il semble que à travers l'humain, à travers la patte humaine, il voyait essentiellement le Christ. L'incarnation pour lui était fondamentale dans son regard qu'il portait sur l'homme et sur la souffrance humaine.
Alors en 1954, il y avait ce débat de l'Express dont on vient d'entendre une archive, et dans cette archive finalement où il dit que les écrivains au fond ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, on a l'impression qu'il parle un peu de sa propre trajectoire. Il le dit d'ailleurs, il dit « je n'étais pas différent des autres ». Philippe Dazébrun, est-ce qu'on peut faire dans la vie de François Mauriac comme une césure entre une jeunesse où il ne s'intéresse qu'à lui-même, une jeunesse qui va durer d'ailleurs jusqu'à assez tard, et à un moment donné, une ouverture au monde qui va faire qu'il va s'engager dans les combats de son temps, et que c'est là qu'il va prendre toute sa dimension comme éditorialiste. Est-ce qu'on peut raconter un petit peu ces deux moments de la vie de François Mauriac ?
On pourrait, mais dans une certaine mesure, tout est en germination quand même, dès la jeunesse. C'est-à-dire que la grande césure, c'est la Grande Guerre, c'est la guerre de 14-18, qui lui fait aborder dans ce qu'elle a de plus horrible l'espèce humaine, dans ce qu'elle a de l'entre-dévorement, comme il le dit lui-même, n'est-ce pas ? Et c'est à partir de là, me semble-t-il, qu'il a une dimension d'un combat intérieur. Il la transpose sur un combat collectif, en quelque sorte. Que son histoire particulière est transcendée par un intérêt pour l'autre dans une histoire qui est l'histoire de l'humanité au regard de, bien évidemment, de sa foi.
Donc c'est aussi un parcours personnel, et ce parcours personnel d'ouverture, on imagine qu'il est accompagné par la religion.
Oui, et qui épouse le sens de l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas une religion vécue dans un, je dirais, dans un cabinet de travail. C'est une religion vécue vers l'autre, tournée vers l'autre, vers ce qu'elle a de plus tragique et aussi de plus heureux.
Quel est ce chrétien qui est François Mauriac à ce moment-là ?
Le chrétien qui est Mauriac dans son travail de journaliste, il témoigne. Il témoigne de ce qu'il voit et de ce qu'il aimerait ne pas voir, en quelque sorte. Et à deux occasions, il va au-delà. C'est-à-dire qu'on le voit prendre part des combats auxquels il est amené à prendre part. Et je pense à deux exemples. Il s'agit de la Ligue internationale des Amis des Basques au moment de la guerre d'Espagne. Il fait partie des personnalités qui prennent part à cette ligue-là, au titre de porte-parole et de combattant, en quelque sorte. Et puis, l'autre cas, c'est France-Maghreb, lors de la crise marocaine.
Michel Vinocq, c'est de François Mauriac, l'écrivain, et puis, à la suite d'une grande crise spirituelle, celui qui va s'ouvrir aux autres, celui qui va s'ouvrir au monde. Est-ce que vous le ressentez comme étant un changement de nature religieuse, ou est-ce que pour vous, c'est plus compliqué que cela ?
Oui, ça doit être plus compliqué, mais je suis entièrement d'accord avec cette idée que c'est son christianisme qui le motive. C'est-à-dire, c'est le christianisme qui le fait sortir de lui-même et lui fait regarder les autres. Il y a un fait qui précède la guerre d'Espagne, du reste, c'est la guerre d'Éthiopie. Et dans le Figaro auquel il collabore, il y a un dessin de Sénèpe, qui est, disons-le en un mot, pour le résumer, un dessin carrément raciste. Et François Mauriac est littéralement indigné par cette caricature qui provoque chez lui une réponse fulgurante contre Sénèpe. Donc, indiscutablement, à ce moment-là, il n'a pas vraiment de conviction, on pourrait dire, de gauche. Non, certainement pas. Il reste un écrivain bourgeois de droite, mais chrétien. Et il ne supporte pas cela, l'humiliation d'autrui, par ne serait-ce que par le crayon. Ça.
Alors, je vous propose d'écouter tout de suite, vous évoquiez Marc Sangnier, Michel Vinocq, une archive dans laquelle François Mauriac parle justement de Marc Sangnier.
Mais tout de même, alors je vais devenir sérieux. Et je vais vous dire une chose qui se rattache à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que même à ce moment-là, j'ai rencontré un homme. Un homme que les jeunes gens ne connaissent, ont oublié, dont ils connaissent peut-être le nom, qui s'appelait Marc Sangnier. Marc Sangnier est un homme qui, pour les catholiques qui avaient 20 ans, en 1905, a représenté, si vous voulez, l'éveil de ce qu'il faut bien appeler la mauvaise conscience. À partir de là, je n'ai jamais eu tout à fait bonne conscience. Mais je n'en ai pas moins délibérément tourné le dos à la politique pour m'occuper de mon œuvre, comme on dit.
François Mauriac dit que les jeunes personnes qui écoutent en 1954 sa conférence ne savent peut-être pas qui est Marc Sangnier. Alors redisons devant les jeunes personnes qui nous écoutent aujourd'hui dans le Chez du Rouge de Malaga, qui était Marc Sangnier et qu'est-ce que c'était que le Sillon, Michel Vinocq ?
Le Sillon n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Un mouvement de jeunes chrétiens, de jeunes catholiques qui veulent en finir avec la guerre qui ne cesse entre les anticléricaux, les cléricaux, les laïcs et les catholiques. Ils veulent adhérer à une démocratie apaisée, réconciliée. Et Marc Sangnier se fait le héros de ce mouvement. Il faut rappeler que le conflit entre les républicains et les catholiques a été extrêmement vif. Et pour une raison historique, à savoir que l'Église du XIXe siècle et du début du XXe siècle est tout à fait hostile au régime démocratique, à la sécularisation, à la laïcité, n'en parlons pas, que les grandes encycliques du siècle sont rappelées sans arrêt, notamment celle de l'Oscillabus de Pie IX de 1864, et nous avons encore au début du siècle un pape qui est Pie X, qui condamne le modernisme, c'est-à-dire l'exégèse scientifique des textes sacrés, enfin, etc. Donc nous avons affaire officiellement à une Église et à un clergé surtout, je ne parle pas des catholiques en général, mais à un clergé qui est extrêmement conservateur, voire réactionnaire. D'ailleurs, une bonne partie de ce clergé reste monarchiste et adhère très souvent à l'antisémitisme, du journal La Croix, etc. Et c'est dans ce contexte, n'est-ce pas, qu'il y a eu cette volonté de la part de jeunes catholiques et avec un maître qu'ils avaient, qui était Marc Sangnier, qui a voulu justement dépasser ce vieil antagonisme pour créer une démocratie de réconciliation. Mais il a été puni, il a été condamné à Rome.
Et c'est là Rome. Où on commence à comprendre la complexité de François Mauriac, Philippe d'Azébrun. Pourquoi est-ce que il ne va pas finalement dans ce qu'il aurait été plus naturel, dans la voie qui aurait été pour lui plus naturelle, qui aurait été finalement un catholicisme plus traditionnel? Pourquoi choisir de suivre Marc Sangnier?
Il rappelait une chose, que nous avons deux types de maîtres, dit-il, les hommes d'abord et les événements. Et je pense que dans le cadre des hommes, il y avait deux personnes qui l'ont tiré vers ce catholicisme social, inspiré du pape Léon XIII et de quelques encycliques, effectivement, qui ont tourné l'Église vers la préoccupation sociale et l'adhésion des catholiques à la République. Il faut s'en rappeler. C'est son frère Jean.
Et Michel Vinocq fait un geste de la main qui veut dire qu'il n'est pas tout à fait sûr. Mais on peut pas engager ce débat ici. On parle de François Mauriac.
C'est le débat qui existe effectivement sur le ralliement. On ne peut pas dire non plus que tous les catholiques n'aient pas rallié la République, puisque la majorité de la population française était catholique et avait voté pour les Républicains. Donc, au total, donc il y a son frère Jean qui l'attire vers le sillon, et puis André Lacaze qui est un de ses jeunes camarades de classe qui lui fait lire La Bertonnière et Blondel. Et je crois à cette sensibilité mauriacienne, qui est aussi une sensibilité de rebelle, de revêche aussi. Hein. C'est quelqu'un qui, dit-il, rue dans les brancards, font que nous avons là un déterminisme vers la réaction au conservatisme.
Et puis c'est quelqu'un, il l'a dit dans l'archive, qui a mauvaise conscience. Comment vous interprétez ce terme de mauvaise conscience? Est-ce que pour vous c'est un moteur politique pour François Mauriac, Philippe d'Azébrun?
Oui, je pense que effectivement, il n'était pas d'une bourgeoisie qui était, très heureuse avec un certain statut. Il en profitait très aisément, mais il avait effectivement cette mauvaise conscience qu'il avait apprise de Marc Sangnier, et avec une dimension, me semble-t-il, du péché dû à la possession.
Michel Vinocq, cette mauvaise conscience de François Mauriac, on la retrouve un peu partout d'ailleurs dans ses récits, dans le bloc-notes aussi.
Certainement, je crois que son statut de jeune bourgeois, d'écrivain issu d'une famille cossue, traditionnelle, l'a convaincu qu'il y avait quelque part une injustice profonde dans cette société, et que les pauvres existaient et que son souci des autres, qui est né de sa religion, vraiment de sa foi, ce souci des autres créait aussi cette mauvaise conscience, parce que Alors, c'est compliqué parce que, comme vous venez de le dire, il en profitait de son statut de bourgeois, n'est-ce pas ? Il n'a jamais craché sur ni sur les honneurs, ni ni sur les.
Il ne s'en cachait pas d'ailleurs.
Non, d'ailleurs, absolument.
Ce qui est plutôt une bonne chose de sa part,
n'est-ce pas ? Lorsque Sartre refuse le prix Nobel. Ça voulait dire quelques millions de francs, n'est-ce pas ? Lui dit, moi je les ai acceptés, j'ai fait refaire ma salle de bain, etc.
Oui, il dit parce que son réfrigérateur faisait trop de bruit pour sa cuisinière.
À la fois, il assume, hein, son statut social, et en même temps, il est conscient que ce statut social, c'est aussi une injustice, en un somme, d'un point de vue chrétien.
Alors Philippe Dazébrun, dans votre article intitulé « François Mauriac face aux enjeux de l'engagement du chrétien dans la cité », vous dites que François Mauriac, écrivain catholique basculant dans le journalisme, cela ne suffit pas à le définir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Parce qu'il mettait derrière les mots qu'il donnait à la presse une dimension qui dépassait le sens de l'histoire, finalement. Pour lui, l'histoire, si criminelle soit-elle, avait un autre enjeu, qui était un enjeu surnaturel, finalement. C'est-à-dire que l'homme, s'engageant dans des combats, quels qu'ils soient, engageait plus que lui-même, c'est-à-dire l'éternité. C'est là toute la connotation catholique du personnage que de voir qu'en chaque geste, il y voit un enjeu qui le dépasse. Et finalement, je pense que le journaliste, prenant le fait, prenant l'événement, nous sommes en train d'y penser ces temps-ci à Malagar, va au-delà du fait. Il s'inscrit dans une dimension qui n'est plus historique.
Donc, le chrétien engagé dans la cité se place dans une tension, hein, c'est votre mot, la tension d'un témoin du Christ. Et toujours, l'histoire et quelque part dans sa tête.
Ah oui, tout à fait. Il a un sens de l'histoire, un vrai sens de l'histoire. Je crois que à Grand Lebrun, qui était son lycée bordelais, il avait sur 10 ans reçu 8 citations. Donc il a un sens de l'histoire, même si le professeur d'histoire lui dit « François, vous êtes plutôt un poète ». Je ne sais pas si c'est un compliment, mais toujours est-il que, pour un historien en tout cas, mais il a un sens véritable de l'événement, de l'histoire. Il voit dans quel sens elle peut se dérouler. Mais il superpose à cela une autre dimension, en effet.
C'est comme ça que vous voyez les choses, Michel Vinac ?
Oui, certainement, mais n'oublions pas qu'il a une formation d'historien, puisqu'il a préparé l'école des Chartes.
Oui, mais il n'aimait pas tellement ça, apparemment.
Oui, mais il n'empêche qu'il fallait bien avaler le programme. Bon, c'est peut-être un détail, mais déjà, n'est-ce pas, il n'est pas innocent devant l'histoire, il sait des choses.
Qu'il aimait simplifier quand même beaucoup l'histoire.
Alors,
il aimait la synthèse historique.
Moi, je crois qu'il y a dans sa conception à la fois de l'histoire, une conception chrétienne. Il y voyait, me semble-t-il, toujours la main de la providence, n'est-ce pas ? Il croit dans la providence. Ce qui m'a toujours frappé quand j'étais son jeune lecteur, c'était que de l'Express, hein, le bloc-notes de l'Express des années 50. C'est que il attendait quand même un sauveur. Un sauveur, il a cru le trouver dans Mendès France, et finalement ça a été De Gaulle. Et ça me chagrinait un peu parce que j'admirais profondément Mendès France, mais pour moi l'histoire, la politique, c'était le fait des forces profondes, collectives, les grands drames de la cité, c'était pas des personnages, et j'avais l'impression que Mauriac était devant l'histoire comme au théâtre. C'est-à-dire que l'histoire se jouait avec quelques personnages. Alors c'était évidemment les bons et les méchants. Hein. Et avec les méchants, il était impitoyable. Enfin, c'est méchant, naturellement. Et c'était ça. Je trouvais que c'était simplifier l'histoire. Ça me gênait un peu parce que je commençais à faire des études d'histoire. Et lui, réduisait ça, je vous dis, à un théâtre. Mais alors, quel théâtre merveilleux il nous a... Alors, il y a donc cet aspect-là, hein, de théâtre, et il y a la providence. C'est-à-dire, qu'au fond, il y a la foi profonde que va émerger de toute l'horreur là qu'on vit avec les guerres coloniales, avec tout cela. il y aura quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui va nous sauver. J'avais ce sentiment-là qu'il était. Et alors, quand De Gaulle, alors il écrivait dans l'Express, qui était un journal à l'époque, un journal de gauche. Et quand De Gaulle arrive en 58, revient en 58, dans le journal, il est tout seul à soutenir De Gaulle. Il est très mal à l'aise par rapport aux autres. Eh bien, je pense qu'il a eu une sorte de vision qui était meilleure que celle des autres, qui pensait, en deux mots, que De Gaulle était le prisonnier de ceux qui l'avaient porté au pouvoir, c'est-à-dire de l'armée et des partisans d'Algérie française, et par conséquent, De Gaulle ne ferait jamais la paix, il ferait toujours la guerre. Et sur ce point, c'est lui qui a eu raison, c'est lui.
C'est par honnêteté que je reconnais que ma patrie n'est pas tout entière à gauche. Elle est à gauche et elle est à droite. Sans vouloir me comparer à De Gaulle, c'est un point que nous avons en commun. J'ai écrit sur le général De Gaulle depuis déjà pas mal d'années. Je donne des raisons de mon adhésion. C'est la satisfaction profonde d'être gouverné raisonnablement. L'œuvre de De Gaulle est d'une telle importance, n'est-ce pas ? D'une telle importance que c'est elle qui suscitera, après De Gaulle, les continuateurs de De Gaulle. Elle les a déjà suscités, mais elle les suscitera, je crois, quand De Gaulle ne sera plus là.
Voilà une archive de la fin des années 60 dans laquelle il concède qu'il n'est pas totalement un homme de gauche, qu'il est un modéré et avant tout donc un gaulliste, Michel Vinocq.
Oui, ses rapports avec De Gaulle tout de même sont curieux en un sens parce que en 1947, lorsque De Gaulle crée le RPF, le Rassemblement du Peuple Français, qui ne veut pas être de gauche ou de droite, Mauriac le dit, c'est ce qu'il aime dans De Gaulle, pourquoi n'a-t-il pas adhéré au RPF ? Alors, très curieusement, non, il se méfie de ce mouvement et il est dans la filière de la démocratie chrétienne. À l'époque, c'était un parti qui s'appelle le MRP. Et en 47, il reste profondément fidèle au MRP et il dénonce par conséquent le RPF. Et cependant, c'est beaucoup plus tard qu'il va... Alors naturellement, il adhérait au De Gaulle de 1940, le De Gaulle du 18 juin, le De Gaulle de la France libre. Pour lui, c'était évidemment un héros de la patrie, il n'y a pas de doute. Mais ce qui peut étonner quand on lit les ouvrages de Mauriac sur De Gaulle, et en particulier il a fait un petit livre qui chez Grasset, je crois, qui s'appelle justement De Gaulle, on a l'impression qu'il a toujours été gaulliste, et c'est pas le cas.
Philippe Dazébrun.
Oui, il y avait, je pense, chez Mauriac, une forme de réconciliation de lui-même dans son gaullisme, c'est-à-dire que il voit très bien à travers De Gaulle une synthèse de cet élément qui lui vient de son père, en fait, hein, c'est-à-dire une forme de républicanisme anticlérical et un peu social, voilà, et d'autre part l'élément qui vient de sa mère, c'est-à-dire une forme de d'esprit de grandeur, c'est-à-dire le sioniste en quelque sorte et le barésien sont réconciliés dans le gaulliste, et c'est ce qui lui fait enfin adhérer à la République. Il n'était pas anti-républicain jusque-là. Il était contre la troisième et contre la quatrième. C'est De Gaulle qui lui permet finalement d'avoir une mystique républicaine et d'être réconcilié avec...
Parce qu'il
régime.
A toujours besoin, quoi qu'il arrive, d'avoir une mystique. Sinon, oui, ça ne fonctionne pas.
Absolument.
Alors, homme de droite, homme de gauche, on l'a vu, il a quand même été d'abord un homme de droite. Il faut peut-être raconter que ses premiers engagements en politique, c'est d'abord plutôt pour protéger le propriétaire terrien qu'il était, Philippe Dazébrun.
Oui, ben voilà, c'est la raison pour laquelle il collabore dans des journaux qui sont plutôt dans une droite bien marquée, conservatrice, comme le Gaulois, comme l'Écho de Paris. Et puis, effectivement, à partir du milieu des années 30, il y a un glissement qui s'opère. Et là, le Figaro l'accueille, qui appartient, me semble-t-il, à cette tendance de la droite libérale, de la droite modérée, avec pour pêcheur, attrapant ce gros poisson, Pierre Brisson, à qui on avait confié le sort du Figaro pour le relever de l'état dans lequel il se trouvait, qui n'était pas très brillant.
Alors, 6 février 34, Michel Vineux, comment Mauriac réagit à l'époque ?
Oh, Mauriac est plutôt du côté du 6 février. Il déteste ce qui va arriver dans les mois suivants, la formation du Rassemblement populaire. C'est un homme de droite, indiscutablement. À mes yeux, le tournant, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 35, où pour la première fois, il se situe dans la critique de la colonisation de Mussolini.
Oui, mais sur la guerre d'Espagne, par exemple.
Ah non, mais c'est après.
Oui.
C'est après.
Il n'est pas tout de suite du côté des Républicains.
Non, parce que il y a ce fait que la guerre d'Espagne a commencé, a été précédée par des violences de la part des anarchistes en particulier, qui ont incendié des églises, qui ont maltraité des
prêtres. En fait, il est du côté des religieux, encore une fois.
Et en catholique comme Claudel, du reste, il est plutôt porté de ce côté-là. Mais assez rapidement quand même, et contrairement à Claudel, qui lui est resté jusqu'au bout fidèle à Franco, Mauriac, dès 1936, il tranche, n'est-ce pas ? Et c'est évidemment la question basque. Et les bombardements du Pays basque par les escadrilles allemandes, n'est-ce pas, qui le fait sortir de son conformisme, je dirais, et qui dit « halte là, nous ne pouvons pas ». Et surtout, il a, comme Bernanos, à ce moment-là, je dirais qu'il rejoint plutôt l'attitude d'un Bernanos catholique, lui aussi, au départ complètement favorable à l'insurrection militaire anti-républicaine. Son fils appartient à la Falange, c'est-à-dire vraiment au mouvement fasciste du franquisme. Et il est, Claudel, il observe, il est témoin à Majorque, n'est-ce pas, des violences perpétrées par ceux qui se battent au nom du Christ roi. Alors ça, c'est insupportable. Et voilà, Mauriac n'a pas supporté, n'est-ce pas, que ces militaires qui ont été aussi des... Les violences ont été de part et d'autre, mais qu'il y ait un camp, n'est-ce pas, qui pratique la violence, la torture, etc., sans parler des bombardements du Pays basque, au nom du Christ roi, c'est insupportable.
Philippe Dazébrun.
Je suis absolument d'accord. Ça commence. Je veux dire, le tournant, c'est le bombardement et les massacres de Badajoz. Donc le 15 août, jour de la fête mariale, pour lui, il est indéniable que un chrétien ou une armée qui se prétend chrétienne puisse opérer de tels méfaits, de tels crimes le jour où l'on fête la Vierge Marie. Donc déjà, si vous voulez, ce fait-là, le fait s'orienter vers une écoute tranche par rapport à son non-interventionnisme, si je puis dire, du mois de juillet. Et puis, effectivement, le bombardement de Guernica, l'écrasement du peuple basque, un peuple chrétien pour lui, il est dans cette dynamique très datée de l'époque de l'Église corps du Christ. Or, là, pour lui, il y a un membre du corps du Christ souffrant. Il faut porter son secours à ce corps.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Michel Vineuc, Philippe Dazébrun, nous allons marquer une pause dans cette émission. Je vous présente l'un des régionaux de l'étape en la personne d'Olivier Mauny, bordelais, que les auditeurs de la compagnie des auteurs connaissent bien. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu, sans accent.
Alors, vous allez nous parler de Mauriac, mais vous poursuivez tout de même votre exploration des marges méconnues de notre paysage littéraire.
Oui, Mathieu, même si j'en conviens, cela peut paraître paradoxal. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un écrivain qui, s'il est très connu dans son pays natal, l'Italie, est loin de disposer, je crois, de la même notoriété en France. Il s'agit d'Alberto Arbacino, dont tout de même quelques livres ont été traduits de-ci de-là en France entre les années 70 et 90, mais de manière trop disparate pour pouvoir rendre durablement justice à son talent. Arbacino a joué en Italie tout au long de la deuxième moitié du siècle dernier, essentiellement entre les années 60 et les années 90, un rôle de premier plan, un rôle littéraire bien sûr, il est le fondateur avec quelques autres, dont Umberto Eco, du groupe 63, revendiquant un néo-modernisme pour aller vite s'opposant au roman bourgeois incarné alors par l'œuvre de Bassani, un rôle intellectuel, mais aussi dans la grande tradition d'un Moravia par exemple, dont il était proche, un rôle politique, il fut même le temps d'une mandature dans les années 80 député du Parti radical. Dans le même temps, grand lecteur, magnifique écrivain, peut-être plus que romancier, grand lecteur, je l'ai dit, critique redouté, anglophile autant que francophile, porté vers le cosmopolitisme et l'amour des garçons. Il y a quelque chose en lui d'un Barthes lombard. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. Pour achever de vous en convaincre, puis-je vous inciter à lire le seul livre de fiction de lui encore disponible en français ? Judicieusement réédité voici peu à la table ronde, Les Petites Vacances, un recueil de nouvelles enchanteurs qui capture en quelques traits l'âme d'un pays, d'une jeunesse enfuie et le charme discret d'une certaine bourgeoisie.
Alors nous le lirons évidemment, mais que vient faire Mauriac dans tout cela, Olivier ?
Alors nous y voilà, Mathieu. Alors qu'il était encore jeune, 25 ans et des poussières, Alberto Arbacino a passé une bonne partie des années 50 jusqu'au début des années 60 à Paris. Là, tout en s'intronisant correspondant spécial de quelques-uns des plus grands journaux italiens, l'Expresso, La Repubblica, il suit les cours de Raymond Aron, il fréquente avec une curiosité gourmande quelques-uns des bas-fonds et des lieux de plaisir plus ou moins ignorés de la capitale, et surtout, il rend visite aux grands maîtres de notre littérature, ceux qui s'apprêtent à baisser le rideau, comme les autres d'ailleurs, de Gide à Céline ou Jouandeau, en passant par Sartre, Beauvoir, Genet ou Julien Green. Parmi eux, rayonnant des mille feux de son autorité sarcastique, Mauriac, qu'il visitera par deux fois au moins en 1956, puis en 1961. Le livre qu'il a tiré 30 ans plus tard de ses années parisiennes, intitulé « Paris, ô Paris », est un chef-d'œuvre, n'ayons pas peur des mots, publié dans la regrettée collection « Le Promeneur » chez Gallimard, et les chapitres consacrés à Mauriac sont parmi les plus savoureux.
Alors qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a noté, qu'est-ce qu'il a enregistré chez Mauriac ?
Sa présence, sans doute, son charisme. Et la seule chose qui échappe peut-être à la volonté de contrôle de Mauriac, son décor. Écoutons Arbacino lors de sa première visite au Maître. C'est donc en janvier 56. Ses pièces sont vastes, pleines d'abat-jour, de télégrammes, de boîtes de gâteaux, de livres sur les miracles, de disques de danse mexicaine entassés par terre. Sur les murs blancs, les cadres ont un air 1920, mondain. Et certains portraits font assez loge de famille à la Scala. L'auteur apparaît en costume croisé bleu, légion d'honneur et pantoufles de Mickey Mouse. À brûle pour point, il affirme « J'ai replongé la plume dans l'encrier il y a un instant. Un écrivain a toujours le devoir de communiquer immédiatement ce qu'il pense. » Fin de citation. Avec son jeune visiteur, Mauriac parle de De Gaulle, bien sûr, de l'Algérie, évidemment, en étant plein dans le drame algérien, comme il l'a mal nommé, de l'abbé Pierre, qu'il n'aime guère, en revanche, mais aussi de l'Italie, celle de Jean XXIII, dont il regrette qu'il ne l'écoute pas plus, de son personnel politique croqué avec non moins de vigueur que celui de l'autre côté des Alpes, de son cinéma et surtout de la strada, qu'il adore. Il se souvient d'un séjour à Florence et d'un marchand de fleurs observé à la fenêtre de son hôtel, je cite là aussi, appuyé au parapet du pont, juste en face de moi, brun, délicat, un teint superbe, des yeux très noirs, de belles petites dents. Il était délicieux. Il parle aussi de lui tout de même. Je cite là encore, tout doucement, on devient prisonnier de son propre personnage. Et pour finir, on ne se reconnaît plus. On se donne beaucoup de mal pour se détacher de cette figure publique qui s'exprime comme un ventriloque. Et d'un amour qui s'éloigne dans la montée du soir, il parle la littérature. Et là, il dit, c'est très émouvant, je trouve, « La vérité est que la littérature est à présent un cancer généralisé, et moi je me détache de plus en plus de cette littérature. Que voulez-vous que j'en fasse de ces romans ?» Dans ces pages, le temps d'un numéro magnifique pour un jeune et bel Italien qui n'en perd pas une miette, Mauriac est là, il bouge, il est vivant, Mathieu.
Michel Vinoff, Philippe Dazébrun, c'est un écrivain que vous connaissiez ou alors l'œuvre de découvreur finalement d'Olivier Mauny va vous servir aussi ?
Mauriac n'est pas fait d'une pièce. Il ne faut pas en faire une image pieuse, une icône. Il a sa vie à lui, son... Bon, Barré, le biographe de Mauriac, a beaucoup insisté sur son homosexualité, exagérément à mon avis, et notamment parce qu'il en fait précisément.
Mais peut-être parce que Jean Lacouture, dans sa biographie précédente, ne l'avait pas mentionné.
Exact, ça c'était une erreur, évidemment, mais de là à en faire la motivation principale de son engagement politique, là, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais je suis bien convaincu que son christianisme a été le moteur principal de son engagement politique. Alors bref, on peut faire des portraits de Mauriac pittoresques. Je crois que le mieux pour un écrivain, c'est de retenir le meilleur, le plus grand, ce qu'il y a de plus grand dans son œuvre et dans sa vie.
Bon, on lira quand même Alberto Arbacino pour nous faire une idée. Merci beaucoup, Olivier Mauny. Puis on se retrouve mardi prochain. La Compagnie des auteurs est en campagne. Nous avons posé nos micros chez François Mauriac à Malagard, dans le Bordelais. Et nous sommes ici en public, dans le Chai du Rouge, où règne encore l'esprit de l'auteur du Mystère Frontenac et de Génitrix. Mais c'est de la politique dont nous parlons aujourd'hui avec Michel Vinoc et Philippe Dazébrun. La politique et les bouleversements sociaux auxquels Mauriac a assisté, comme notamment mai 68.
Que retenez-vous de l'expérience 1968 ?
Eh bien... Il m'a apporté des catastrophes comme au reste du monde. J'en garde un très mauvais souvenir. Parce que, vous savez, je me faisais de grandes illusions sur la politique. C'est-à-dire que j'avais fini par croire, si vous voulez, que la politique pouvait fonder quelque chose de durable. Et les événements de mai... m'ont surpris comme tout le monde, mais en plus, ils m'ont beaucoup attristé. Je ne suis pas du tout de ceux qui trouvent des raisons de se réjouir. 68 a été pour moi une année néfaste. Elle a été, alors sur un plan plus personnel, une année bénéfique. Car ça va peut-être vous étonner, au moment de ces événements que j'évoque, j'étais dans un état, comment dirais-je, d'exaspération telle que, ne sachant trop à quel somme vouer, j'ai repris un roman que j'avais commencé, parce qu'il y a 15 ans que je n'écris plus de roman, mais il m'est arrivé souvent de commencer une histoire que je laissais dans un tiroir. Et il y en avait une qui me tenait un peu plus à cœur. Et à ce moment-là, durant ces 15 jours, je me suis remis au travail pour m'évader en quelque sorte.
On ressent bien, Philippe Dazébrun, en écoutant cette archive, le choc qu'a été pour Mauriac mai 68, à tel point qu'il lui a fallu se réfugier dans le travail romanesque.
Oui, c'est un choc, mais il avait déjà un peu, non pas prévu, mais en tout cas, il voyait qu'il y avait un problème dans la jeunesse. Et il en avait averti le pouvoir,
un
d'ailleurs,
problème.
Dans ses chroniques. Oui, oui. Dans ses chroniques, on voit qu'il se préoccupe de la jeunesse. Et finalement, cette jeunesse qui s'exprime avec cette violence, peut-être est-il surpris de la violence, ça c'est certain. Mais il sentait qu'il se passait quelque chose souterrainement. Et d'ailleurs... Le premier des réflexes qu'il a, c'est de mettre en garde le général de Gaulle avec les deux autres prix Nobel vivants, en demandant au pouvoir de ne rien faire contre cette jeunesse. Et donc il est à l'écoute quand même. Il est à l'écoute. Alors bien évidemment, il ne la comprend pas complètement. Il ne comprend pas, je dirais, une espèce de défoulement d'ordre sexuel par exemple. Il ne comprend pas ça, d'autant plus que lui a en souvenir sa propre jeunesse, c'est-à-dire celle des sacrifiés de 14. Donc il se demande bien ce qu'elle peut vouloir, cette jeunesse-là. Mais il y a une rupture qui ne peut pas se faire, c'est celle du pouvoir contre la jeunesse. Ça, pour lui, c'est fondamental.
Pour lui, c'est une crise de civilisation, et c'était une crise religieuse aussi, à l'échelle de la société.
Ni véritablement de génération, mais une crise sociale.
De civilisation.
De civilisation peut-être. En tout cas, il est plus dans l'explication sociale. C'est-à-dire que pour lui, le problème n'oppose pas deux générations l'une contre elle, mais plutôt deux jeunesses l'une contre elle. C'est-à-dire une jeunesse qui, de toutes les façons, montera en première, et l'autre qui restera toujours en seconde. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'il situe le problème de mai 68.
Michel Vinocq.
Je crois qu'il y a aussi, de sa part, comme chez beaucoup d'hommes de sa génération, et pas seulement de sa génération, l'incompréhension. Quelque chose difficile à analyser, à comprendre. Il est convaincu que la France a tout de même trouvé sa solution politique avec De Gaulle. Que De Gaulle a instauré un régime stable, avec des institutions qui fonctionnent. Qu'il a fait pour la France un immense travail de redressement. Bref, il est, je dirais, quasiment acritique vis-à-vis de De Gaulle. Quasiment. Et comment, alors, dans une société comme la France, qui a été véritablement renouvelée, redressée par ce grand homme, on va se dresser contre lui. On veut tout bouleverser. Non, il y a de l'incompréhension.
Et y compris jusque dans sa propre famille, puisque Anne Wiazemski, sa petite fille, s'est mariée avec Jean-Luc Godard, et ça fait une alliance un peu paradoxale entre Génitrix et Pierrot le Fou. Donc ça l'atteint presque personnellement.
Oui, mais en même temps, il a été, je connais pas l'épisode dans sa précision, mais assez compréhensif avec sa petite fille, n'est-ce pas? Je crois que Anne Wiazemski le dit dans ses livres, c'est souvent que c'est auprès de son grand-père qu'elle rencontre la compréhension.
Philippe Dazépin.
Oui, mai 68, c'est aussi le moment, me semble-t-il, où il commence à ne plus comprendre le général de Gaulle, où il sent qu'il y a une défaillance chez le grand homme dont il a élevé la statue, en quelque sorte. Et son regard se tourne un peu plus qu'il ne le faisait jusque-là sur Georges Pompidou. C'est le moment où les choses basculent, en fait.
Ce qu'il y a de vrai, c'est que, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été intéressé,
oui,
et même passionné par la politique. Quand j'étais un adolescent à Bordeaux, c'était à l'époque du combisme, et même enfant, pendant l'affaire Dreyfus, j'ai toujours été passionné par la politique. Mais je crois profondément que, comme tous les hommes, j'aime d'abord mon métier. Mon métier à moi, c'était de raconter des histoires, en somme. J'ai d'abord été un poète, mais enfin, le poète a fini par s'exprimer dans des romans. Et je me suis souvent demandé ce que j'aurais fait si j'avais pas écrit des romans. Je suis vraiment un des hommes qui ne trouvent nulle part leur place.
Vous auriez peut-être fait de la politique.
Peut-être, peut-être. Enfin, en tout cas, tant que j'ai été un romancier, je m'intéressais à la politique. Mais, enfin, ça ne me concernait pas directement, vous comprenez?
Philippe Dazébrun, François Mauriac, d'abord un écrivain qui s'est passionné de politique.
Ah oui, moi je pense, effectivement. D'ailleurs, c'est lui qui prend la formule et qu'il adopte journaliste-écrivain, ou d'écrivain-journaliste. Donc il voit bien, n'est-ce pas, comment le romancier peut nourrir, finalement, le journaliste. Et il n'y a qu'à voir son bloc-notes. Il parle quelquefois de tout autre chose que de la vie politique.
Il parle de la télévision, d'ailleurs.
De la télévision, bien évidemment, mais aussi de son jardin à Malagar, d'un spectacle. Et il se nourrit, finalement, de ce spectacle-là qui ne qui peut ne pas être politique, pour éclairer le spectacle politique ou le théâtre politique dont on parlait tout à l'heure. Il voit du Shakespeare souvent dans la scène politique, et de Gaulle en étant effectivement le rôle principal.
Et quand il parle de la télévision, ça n'est quand même pas dénué d'une vision de la société, parce que il voit très très tôt, c'est-à-dire au début de la télévision, ce que va devenir ce média et la société du spectacle qu'elle va engendrer. Il n'a sûrement pas lu le livre « La société du spectacle », mais en tout cas, on sent dans ses téléchroniques qu'il a un point de vue sur ce que la société de l'apparence est en train de devenir.
Oui, parce que je crois qu'il a cette profondeur. La profondeur du champ que lui donne son expérience d'écrivain, de spécialiste, je dirais, de l'âme humaine, pour être plus en recul et donc en pertinence par rapport au spectacle qui s'offre devant lui dans cette télévision des années 60 qui est bien différente de celle que nous avons aujourd'hui.
Est-ce que c'est un anti-moderne, du coup, François Mauriac ?
Non, je ne dirais pas cela. J'insisterai sur le fait que c'est un écrivain, oui, avant tout, oui, mais c'est aussi ce qu'on appelle un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise son prestige, sa renommée, sa réputation qu'il a acquis par l'écriture pour s'engager dans la vie publique. Et à ce titre, il fait partie de la grande tradition humaniste, dreyfusarde. Il en parle beaucoup de l'affaire Dreyfus. Bon, il ne l'a pas vécu, il était tout petit, mais il raconte.
Il en a beaucoup entendu parler.
Il en a beaucoup entendu parler. Et dans sa famille, on était anti-Dreyfusard. Et il s'inscrit bien dans cette tradition-là. Quand on songe à ses combats pendant la décolonisation, contre la torture, quand il s'engage, lui, catholique, derrière Mendès France, un radical. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il n'était pas républicain encore, derrière Mendès France, il a montré qu'il était tout de même républicain, partisan d'une république. Et là, on peut dire, il est apparu comme un homme de gauche à ce moment-là. Et ce qui a changé, c'est sa fidélité, ou c'est son adhésion à De Gaulle. Alors là, il y a eu un basculement non pas dans ses convictions, mais un basculement par rapport à son milieu. La preuve, c'est qu'il a été obligé de déménager son bloc-notes de l'Express au Figaro littéraire.
Oui, chez sa maîtresse. L'Express, c'était sa maîtresse, c'est ça. Voilà. Et sa femme, voilà, c'était le Figaro.
Il est revenu au bercail, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Mais n'oublions pas ce qu'il a représenté pour toute une jeunesse, alors celle des années de la guerre d'Algérie. Mauriac, nous le dévorions. Je me souviens que le jeudi, c'était le jeudi qui paraissait l'hebdomadaire. On lisait d'abord, il écrivait son bloc-notes à la dernière page, n'est-ce pas ? On lisait d'abord le bloc-notes, et c'était éblouissant. Et en même temps, c'était courageux, c'était pugnace, c'était parfois méchant, même il a pu avoir des formules terribles, notamment contre sa propre famille, le MRP, Georges Bidault, etc. Donc, ne nous attardons-t-on pas trop sur la fin de sa vie ? N'oublions pas qu'il a été un combattant de la plume, un combattant intellectuel.
Et puis la fin de sa vie, c'est la publication des Mémoires politiques. On a dit que c'était un travail un peu bâclé, Philippe Dazébrun, cette anthologie, c'est votre avis aussi ?
Oui, il se donne le beau rôle. Hein. Il a oublié quelques textes, on dira.
Quel texte en particulier ?
Oh, les textes, notamment lors de l'affaire Stavisky, qui était publié dans l'Écho de Paris. Il n'a pas oublié l'International de la haine, qui était le texte contre Blum, où il l'avertit qu'il ne pardonnerait pas une intervention en Espagne. Ouais, en gros, voilà, le rôle est meilleur, effectivement, lorsqu'on relit les Mémoires politiques que lorsqu'on reprend le bloc-notes publié récemment ou d'un bloc-notes à l'autre.
C'est quand même souvent très drôle et on peut peut-être terminer là-dessus, c'est-à-dire que la politique telle que vue par François Mauriac, c'est quelque chose d'extrêmement relevé.
Michel Linotte. Il a le sens de la formule, de la satire. Il a des expressions impitoyables contre ceux qu'il considère comme des malfaiteurs de la politique. Il est vrai que parfois il se laisse entraîner par un tempérament excessif. Alors, il s'en excuse après coup, il s'en excuse toujours après coup. Mais il a ça dans, je dirais, dans ses gènes, quoi. C'est un combattant, c'est un polémiste et magnifique. On peut dire que comme journaliste polémique, il est admirable.
Un tout dernier mot, Philippe Dazébrin, de conclusion.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a de l'esprit chaque fois. Lorsqu'on lit Mauriac, on voit scintiller l'esprit dans... Mais ensuite en remords, voilà, on voit bien le chrétien derrière.
Merci à vous deux, Michel Vinocq, Philippe Dazébrin, et tout de suite on retrouve la poésie, Jacques Bonafé.
Bonjour, Eugène Guivic nous fait la semaine. C'est bien peu pour placer l'art poétique de Guivic. En entier, non, c'est impossible. Il faudrait plus souvent avoir recours à l'art poétique d'Eugène, le livre... Le poème, l'art poétique, il devrait circuler dans les écoles. J'ai eu cette chance de voir Guivic dans un atelier spontané au salon du livre de jeunesse à Montreuil ouvrir littéralement les enfants à l'écriture. Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Il t'arrive des mots, des lambeaux de phrases. Laisse-toi causer, écoute-toi et fouille. Va plus profond. Regarde au verso des mots. Démêle cet écheveau. Rêve à travers toi, à travers tes années vécues et à vivre. Utilise le « tu » comme à soi-même. Il se tutoie, il s'adresse à lui-même. Comment tu vas ? Et l'hirondelle. Elle va, vient, tourne, revient, bec ouvert sans doute, à la recherche de sa proie. Crie parfois, se repose peu. Le pigeon s'agite moins, reste souvent immobile sur une branche. Attendant que monte en lui le roucoulement. Je n'aime pas qu'il y ait en moi ces espèces de brouillards qui empiètent sur mon domaine et ne me laissent pas voir où je suis, où j'en suis. Alors j'attaque, je ramasse tout ce qu'au dedans je trouve et tout ce qu'au dehors j'arrache comme clarté ou moyen d'en faire naître. Dans ce dehors, les mots percent. Les mots sont des épées contre les ventres des brouillards. Je ne sais pas comment marcher sur les nuages. Alors je l'imagine, et ça dure. Surtout si je ne regarde pas, et rêve à ce que je vais écrire. Oh, j'ai oublié la lune. On n'en finit jamais avec la lune. On a beau la regarder, la peindre, écrire sur elle... Lui parler, essayer de la caresser, lui tourner le dos, l'insulter. Quand elle est là, elle nous verse son lait. Quand elle n'y est pas, son lait nous manque. Tu n'en finiras donc jamais. Encore un poème, encore un. Cette pensée t'agace et même elle t'affole. Ce besoin d'infini qui fait bouger la mer. Mais si une fois tu t'arrêtais pour de bon, tu serais un creux comme entre deux vagues. À ras de terre, chanter mon solo, comme le pissenlit que je voudrais être, au fond du jardin. On se le répète celle-là. À ras de terre, chanter mon solo, comme le pissenlit que je voudrais être, au fond du jardin. Avec la lune, avec la lande, jouer à « je suis, je ne suis pas ton miroir ».
Ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Jacques Bonafé, comme chaque jour, dans la compagnie des auteurs. Un grand merci à vous deux, Michel Vinocq et Philippe Dazébrin, de nous avoir éclairés aujourd'hui sur les rapports de Mauriac avec la politique, ainsi que sur le Mauriac éditorialiste. Je signale la réédition ces jours-ci en folio Histoire chez Gallimard d'un ouvrage que vous consacrez, Michel Vinocq, à François Mitterrand. Et puis, toujours, votre livre Le ciel clos des intellectuels, c'est aux éditions du Seuil. Vous pouvez retrouver et podcaster cette émission sur le site de France Culture. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la technique, il y avait Alexandre James et Hervé Dubreuil. Et à la préparation, Corinne Amard, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Eva Le Sceau. Demain, nous explorerons la maison de François Mauriac, c'est-à-dire ici, Malagar. Nous serons en compagnie de Caroline Casville et de Claude Froimont dans un instant, les sciences sur France Culture.